VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech avec vous, il est 19h30 en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, en République démocratique du Congo, 11 miliciens congolais ont été condamnés à la prison à vie pour viol massif d'enfants qui avaient entre 8 mois et 12 ans. Sommet du G5 Sahel, dirigeants européens et africains ont eu de nouvelles promesses de financement de cette force. Autre sommet, celui des leaders musulmans à Istanbul. Ils appellent à la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et puis, séisme politique en Alabama, un démocrate remporte le siège au Sénat face à un républicain soutenu par Donald Trump. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Un tribunal militaire dans l'est de la République démocratique du Congo a condamné 11 miliciens congolais à la prison à vie. Ils ont été reconnus coupables de viols massifs qualifiés de crimes contre l'humanité. Éric Maniarakiza.
Le verdict a fait le bonheur des parties civiles et des ONG qui luttent contre l'impunité des crimes sexuels en RDC. Il a été rendu dans une salle d'audience pleine à craquer. Une foule nombreuse était massée autour du palais de justice avant même l'ouverture de la séance. 12 parents ont témoigné cachés derrière un rideau et leur voix était masquée. Le chef de milice et ex-député provincial du Sud-Kivu, Frédéric Batumike, ses 17 co-accusés, étaient poursuivis pour une série de viols à Kavumu, un village proche du Rwanda. Ils étaient accusés d'avoir violé une quarantaine d'enfants de 8 mois à 12 ans entre 2013 et 2016. 12 miliciens, dont Frédéric Batumike, ont écopé une prison à vie, de prévenus une année de prison, et les 6 autres ont été acquittés. Ils sont tous présentés comme membres de la milice de l'armée de Jésus.
République démocratique du Congo, toujours, 4 personnes se sont noyées en fuyant l'attaque d'une milice contre une zone minière du nord-est du pays. Les victimes sont mortes dans la rivière Ituri en voulant fuir samedi des miliciens du groupe armé Mai Mai Simba dans la province de l'Ituri. On est également sans nouvelles depuis samedi de 46 autres personnes qui pourraient avoir été enlevées par la milice. Au Burundi, l'opposition a dénoncé le lancement par le président Pierre Nkurunziza de la campagne du référendum sur une révision de la constitution qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La révision de la constitution est une déclaration de guerre au peuple burundais, a réagi le CNARED, plateforme de l'opposition en exil. En Angola, passe d'armes publiques inédite entre le nouveau président, João Lourenço, et son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Les changements sont nécessaires, mais ne devraient pas être aussi radicaux, a déclaré M. dos Santos devant la presse. M. Lourenço lui a répondu, devant la presse toujours, aujourd'hui, en promettant de continuer à lutter contre la corruption. Les gardes-côtes équato-guinéens ont intercepté une embarcation de fortune avec à son bord 205 migrants ouest-africains, parmi lesquels un nouveau-né et 3 femmes enceintes disant vouloir aller au Gabon. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui les médias locaux. Malabo va organiser le rapatriement de ces migrants clandestins vers leur pays d'origine dans les prochains jours. Dirigeants européens et africains se sont retrouvés aujourd'hui en France pour accélérer la mise en œuvre de la force du G5 Sahel. Ils ont obtenu de nouvelles promesses de financement. Le point, Yacouba Ouédraogo.
Le président Emmanuel Macron a accueilli cette réunion de soutien au G5 Sahel en présence de tous les chefs d'État des pays membres. Côté européen, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs des gouvernements italiens Paolo Gentiloni et belge Charles Michel ont répondu à l'appel. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis sont aussi représentés. L'objectif, selon l'Élysée, est d'accroître la mobilisation sur les plans militaires, politiques et financiers. L'argent est le nerf de la guerre contre le terrorisme, mais la force du G5 Sahel a beaucoup de mal à mobiliser les fonds. L'Union européenne a promis 50 millions d'euros, la France 8 millions, chacun des pays fondateurs de la force 10 millions. Les États-Unis ont quant à eux promis une aide bilatérale de 60 millions de dollars. L'Arabie Saoudite avait promis 100 millions de dollars. Cette réunion sera complétée par un sommet en février à Bruxelles. Lancé en début d'année, le G5 Sahel a son quartier général à Sévaré, au Mali. Il a récemment mené sa première opération dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où sont restés actifs des groupes djihadistes.
Yacouba Ouédraogo, au Nigeria, quelques 100 000 personnes déplacées par les violences de Boko Haram ont commencé à recevoir des papiers d'identité. Le but de l'opération, les aider à retrouver une existence normale dans le nord-est du pays. Selon le HCR, 90% des personnes déplacées vivant dans le Borno n'ont pas ou plus de papiers attestant de leur identité. Au Togo, des milliers de personnes ont à nouveau défilé aujourd'hui dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition qui boycotte les concertations proposées par le gouvernement. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a martelé que la mobilisation continue jusqu'à satisfaction de nos revendications, le retour à la constitution de 1992, constitution qui prévoyait une limitation à deux mandats présidentiels et le départ du président Faure Gnassingbé. La justice sud-africaine a donné un mois au président Jacob Zuma pour mettre en place une commission d'enquête sur la corruption à la tête de l'État. Le chef de l'État avait saisi la justice pour obtenir l'annulation d'un rapport compromettant pour lui. L'auteur du rapport réclamait une commission d'enquête que le président a toujours refusée. La haute cour de Pretoria a donné tort à Jacob Zuma, estimant qu'il avait fait preuve d'une grave imprudence en réclamant l'annulation du dit rapport.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, défaite cuisante pour le parti du président américain. Le candidat démocrate au Sénat dans l'État de l'Alabama a réussi l'exploit de se faire élire hier dans ce bastion conservateur, battant un républicain accusé d'attouchement sur mineurs. Il était soutenu par Donald Trump. Salwa Jafari.
C'est l'issue d'un match qui aura captivé l'Amérique. Le démocrate Doug Jones l'emporte sur son adversaire républicain, Roy Moore.
Je suis vraiment, vraiment dépassé. Mais vous savez, et vous m'avez toujours entendu dire à un moment ou un autre de cette campagne, j'ai toujours cru que les habitants de l'Alabama avaient plus en commun que ce qui nous divise.
Selon des résultats quasi complets, Doug Jones a obtenu 49,5% des voix contre 48,8% pour Roy Moore. L'écart est étroit. Moore refuse de concéder sa défaite et demande un recomptage des bulletins.
Ce n'est pas fini. Nous devons encore respecter les règles qui concernent cette disposition de recomptage.
La défaite de Moore est un revers personnel pour le président des États-Unis qui avait appelé ses partisans à soutenir le républicain malgré les accusations d'harcèlement sexuel sur des mineurs dans les années 70. Jamais depuis 1992, un démocrate n'a été élu sénateur dans l'Alabama, un État du Sud très conservateur.
Sommet des leaders musulmans à Istanbul. L'OCI appelle à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. Des détails, Raissa Girondin.
Les dirigeants des pays membres de l'OCI ont répondu à l'appel de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc espère unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté face à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le monde musulman est profondément divisé. Plusieurs pays de la région, comme l'Arabie saoudite, veulent cultiver de bons rapports avec l'administration Trump sur fond d'hostilité envers l'Iran. Outre la faible participation saoudienne à cette réunion, le président iranien Hassan Rouhani a déploré que certains pays coopèrent avec les États-Unis et le régime sioniste. La mesure américaine a provoqué des manifestations dans plusieurs pays du Proche-Orient et des violences dans des territoires palestiniens et à Jérusalem. 4 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés depuis jeudi dernier.
Réaction israélienne aux déclarations de l'OCI. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachon, les a qualifiées de provocatrices. Les Palestiniens feraient mieux de reconnaître la réalité et d'agir en faveur de la paix et non de l'extrémisme, a ajouté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a même prédit que, je cite, « de nombreux autres pays reconnaîtront Jérusalem comme la capitale d'Israël et y transféreront à leur tour leurs ambassades ». Fin de citation. Les États-Unis vont fournir au Liban ses premiers hélicoptères d'attaque pour lui permettre de renforcer la protection de ses frontières et faire face aux groupes djihadistes. L'annonce a été faite à Beyrouth lors d'une visite du général Joseph Votel, commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient. En Grande-Bretagne, les députés de la majorité conservatrice au pouvoir vont se prononcer dans la soirée sur un amendement susceptible de mettre le gouvernement en minorité dans le cadre de l'examen d'un important projet de loi qui vise à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni en le transposant dans le droit britannique. Et à Bruxelles, au début d'un sommet européen de 2 jours qui doit notamment décider vendredi de passer à la 2e phase des discussions du Brexit qui inclut les futures relations commerciales entre Londres et l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au sommet sur le climat en France, la Commission européenne et la Fondation Gates s'engagent à aider les agriculteurs les plus pauvres. Elles ont promis un investissement de plus de 600 millions de dollars en 3 ans pour renforcer la recherche dans les domaines agricoles. Quelques 600 chercheurs africains et européens bénéficieront d'un soutien séparé de 15 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans. Environ 800 millions de personnes vivent de l'agriculture en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. En raison du réchauffement climatique, les récoltes de maïs en Afrique pourraient baisser de 20 à 50% d'ici à 2050. Le FMI accorde à la Mauritanie près de 164 millions de dollars. Ce crédit permettra d'accompagner le programme de réformes économiques et financières du pays. Nouakchott a élaboré une stratégie de croissance inclusive pour la période 2017-2030 pour des réformes structurelles et d'importants investissements dans les infrastructures. Enfin, le gouvernement de Djibouti veut réduire de 45% les tarifs de tous les services portuaires dans le nouveau port multifonction de Doralé. Djibouti est situé sur l'une des routes maritimes commerciales les plus fréquentées du monde, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les autorités entendent tirer profit de cette position stratégique pour peser sur le trafic maritime dans la corne de l'Afrique et devenir un véritable hub commercial, régional et international.
Place au sport avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie. Bonsoir à tous.
Coupe du monde des clubs, qui pour affronter Grêmio en finale?
Eh bien, ce sera le Real Madrid qui affrontait tout à l'heure la modeste équipe d'Al Jazeera Abu Dhabi, le pays organisateur de ce tournoi. Mais que ce fut dur pour les Madrilènes. Les Émiratis ouvrent le score en toute fin de première mi-temps par Romarinho, 1-0. Puis Ronaldo égalise au retour des vestiaires à la 53e minute. Et en toute fin de match, c'est Gareth Bale qui donne la victoire à Madrid. Ce fut dur, mais victoire 2-1. On rappelle que la deuxième équipe à atteindre la finale, c'est le Grêmio. Les Brésiliens avaient éliminé hier en demi-finale les Mexicains de Pachuca, 1-0.
En Angleterre, Manchester City peut-il battre tous les records, Nicolas ?
Et oui, lors de cette 17e journée de la Premier League, les Citizens qui caracolent en tête, ils ont l'occasion ce mercredi contre Swansea de remporter une 15e victoire consécutive, ça serait un record. Manchester City compte déjà 11 points d'avance sur le dauphin Manchester United, battu dimanche à Old Trafford 2-1. Pour Manchester United, ils jouent contre le mal classé Bournemouth, 14e, et puis Tottenham contre le promu Brighton.
Et Mondial 2018, une prime juteuse pour les Allemands s'ils conservent leur titre.
Et oui, puisque chaque joueur touchera 350 000 euros si l'Allemagne parvient à conserver son titre de championne du monde l'été prochain en Russie. Annonce de la Fédération allemande de football. Cette récompense est la plus importante jamais promise aux Allemands en Coupe du Monde. Les vainqueurs du Mondial brésilien en 2014 avaient empoché ainsi chacun 300 000 euros.
Et pour finir, le championnat NBA de basket nord-américain.
Kawhi Leonard était enfin de retour de blessure avec San Antonio, mais la fête fut de courte durée puisque les Spurs se sont inclinés à Dallas 89-95. Cleveland a célébré une 9e victoire d'affilée aux dépens d'Atlanta 123-114. À New York, les Lakers de Los Angeles ont poussé les Knicks jusqu'en prolongation, mais c'est la franchise new-yorkaise qui a eu le dernier mot, 113-109.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiège avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont en grève. Une grève illimitée pour exiger le paiement des heures supplémentaires, soit plus de 800 millions de francs CFA. L'université est donc vide depuis hier, comme a pu le constater notre correspondant Georges Ibrahim Toumkara.
Salles fermées, amphithéâtre désert, ce ne sont pas les congés de fin d'année, mais c'est tout comme à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, les activités académiques sont à l'arrêt depuis que la CENEC, la Coordination nationale des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, a lancé son mot d'ordre de grève. Johnson Kwasi Zamina, secrétaire général de la CENEC.
Nous constatons que les engagements n'ont pas été respectés. Quant au paiement des heures complémentaires, l'exercice 2015-2016, nous avons discuté et ça n'a pas eu d'issue. C'est pourquoi, fatigués d'attendre, les enseignants ont décidé que nous rentrions en grève.
Sur les 5 milliards de francs CFA que l'État devait aux enseignants au titre des heures supplémentaires, il ne reste à payer que 873 millions de francs CFA. Pour les enseignants, le temps n'est plus au dialogue. Des enseignants qui disent ne pas être tenus par la trêve sociale conclue en août dernier entre les centrales syndicales et le gouvernement.
Nous sommes dans un moule avec des caractéristiques différentes. Et dès lors que chaque élément de ce moule se sent en insécurité, il convient qu'il se défende pour qu'il rentre dans ses droits. Et comme il n'y a que ce genre de violence entre griffes que le gouvernement entend. Voici pourquoi nous rentrons en grève.
Les plus impactés par cette grève, ce sont évidemment les étudiants.
On peut dire que la grève ne nous arrange pas, hein, franchement. Nous, par exemple, on a fini la majorité de nos concours. Il reste quelques parties dans lesquelles nous n'avons pas composé. Donc, si on pouvait essayer en tout cas de trouver une issue à cette grève, ça allait vraiment nous arranger.
Actuellement, la grève des professeurs nous pénalise, étant donné que, en principe, nous sommes censés terminer nos compos le jeudi. Mais avec la grève, voilà, on est obligé d'attendre jusqu'à ce qu'ils reprennent. Non, forcément, ça nous pénalise, parce que là, on ne sait même plus quand est-ce qu'on va terminer.
À la présidence de l'université, on se veut rassurant. Tout sera réglé dans 48 heures, selon une source jointe par la VOA. En attendant la reprise des cours, des membres de la FESI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, procèdent à une démonstration des forces sur le campus universitaire.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'État hébreu s'en réjouit, mais le reste de la planète s'inquiète. Dans quel contexte s'inscrit cette décision du président Donald Trump? Quelles en sont les conséquences? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En Guinée, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a fait fermer 47 stations radio et télévision. Il leur est reproché le non-paiement des frais de licence pour certains et le non-renouvellement pour d'autres. À cela s'ajoutent des arriérés d'environ 600 000 dollars accumulés depuis 2009 au titre des redevances annuelles dues par les radios et télévisions. Yacouba Ouédraogo a joint Sanou Kerfala Sissé, président de l'Union des radios et télévisions libres de la Guinée. Écoutons-le.
En ce qui concerne, par exemple, le non-renouvellement des licences, la responsabilité, si elle est partagée, incombe beaucoup plus à l'autorité des postes et télécommunications qui porte souvent de petits problèmes lorsque les promoteurs des radios viennent pour renouveler leurs licences.
Quel genre de problème vous rencontrez?
Je vous donne un exemple précis. Lorsque j'ai constaté que la licence de Sabari FM arrivait à échéance, j'ai écrit au directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour le signifier mon intention de renouveler ma licence d'exploitation. Pour toute réponse, monsieur le directeur m'intime l'ordre de payer l'arriéré au titre de l'exercice 2009. Tant que je ne payais pas, il n'allait jamais me délivrer une nouvelle licence, tout en disant qu'il fallait que je ferme et je paye d'abord les frais de renouvellement de licence, encore qui coûtait même le prix d'une licence. Donc, c'est une nouvelle donne, puisque c'est toute chose qui ne figurait pas du tout dans le cahier de charges. Monsieur le président de la République, à l'époque, a pris une décision.
Quand vous dites président de la République, à qui vous faites allusion?
Je parle du président Dadis. À l'époque, il a été décidé que les radios payent désormais 5 millions de francs guinéens au titre de la location des fréquences qui sont allouées aux différentes radios. Depuis 2010, nous avons bel et bien payé les 5 millions. Ils nous ont rétorqué que ce fut une décision verbale.
Pourquoi vous n'avez pas exigé en son temps une note écrite?
Le temps de prendre cette décision et l'attentat que Dadis avait fait l'objet à l'époque, c'était très court. Cette rencontre s'est déroulée entre mois d'octobre, le mois de novembre et le 3 décembre, le président Dadis a été victime d'un attentat. Quand on reçoit une lettre le mercredi pour dire vendredi, je vais venir vous fermer, c'est qu'il y a un problème. Donc, nous avons vu une volonté manifeste du directeur général de l'autorité des postes et télécommunications d'en découdre avec la presse. Nous sommes clairs là-dessus. Nous ne donnerons l'occasion à personne pour bâillonner cette presse en Guinée.
Est-ce que des démarches sont entreprises pour que ces stations radio et télévision fermées là rouvrent?
Certaines radios qui ont des relations se sont régulièrement acquittées. Nous, par exemple, nous avons demandé à certains de nos fournisseurs de nous avancer non seulement 2018 et 2017 à cette ardoise. Ce qu'on a essayé de faire hier, notre radio a été autorisée à émettre.
Est-ce que vous sentez que tout cela est politique?
Si la décision, elle est politique, et si les radios aussi avaient fait un peu d'effort, la situation que nous vivons aujourd'hui allait être derrière nous. Mais c'est que ce gouvernement oublie. Nous employons aujourd'hui plus de 2500 personnes. Donc, s'ils se mettent à fermer les radios, vous avez 2500 bandits dans la rue.
Le président de l'Union des radios et télévisions libres de la Guinée, Sanou Kerfala Cissé, joint à Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, le grand marché de Bamako, le marché rose, a pris feu. Le bilan est d'un mort et d'importants dégâts matériels dont la facture pourrait être de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les causes de l'incendie ne sont pas connues, mais les branchements électriques anarchiques posent question. Kassim Traoré.
Assis sur un tabouret devant ses trois magasins partis en fumée, Aboubakar Simpara a les regards fixés sur le ciel dans une profonde méditation. Sur une aile du marché rose, sous un hangar de fortune, les responsables du marché sont en concertation. Les victimes de l'incendie sont entre tristesse et consternation totale, parce que certains d'entre eux ont perdu les réalisations de leur vie. Cheikh Oumar Djabi, commerçant détaillant.
J'ai beaucoup de peine parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui vont aujourd'hui mal dormir. Je sais qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vont peut-être pleurer parce que les enfants, les femmes, les familles qui normalement avaient tous leurs revenus tirés de ce marché aujourd'hui vont avoir beaucoup de peine à dormir. Donc aujourd'hui, je vais peut-être demander à l'État aussi, dans ces moments difficiles, d'assister cette population qui vient d'être sinistrée.
Tout autour des magasins, boutiques et kiosques calcinés, des jeunes tentent de récupérer certaines affaires qui ont échappé aux filles. Alors que vers les magasin de Saint-Para, les sapeurs-pompiers s'activent pour éteindre les restes du feu.
Je suis venu pour un assa aujourd'hui. J'ai trouvé que le marché a pris du feu comme ça. Bon, ça m'a beaucoup surpris quoi. Donc, je vais leur donner du courage de serrer toujours la ceinture. Ça. Le marché a pris du feu comme ça, sans explication au niveau des autorités. Bon, j'avais voulu que les autorités mettent un comité en place pour le suivi de l'électricité.
Certaines personnes sont venues consoler moralement les commerçants, mais tout en dénonçant le comportement des autorités en charge de la gestion des marchés de Bamako. Bouboula, citoyen.
Ce qu'on est en train de voir là, c'est criminel. Hein? Depuis longtemps, on voit les commerçants qui font rentrer des ressources. Et les commerçants font rentrer de l'argent, plus de 880 milliards dans la caisse. Donc on doit les aider. Mais depuis qu'on a vu ce jour, tu as vu un ministre ici, même s'il y a une. Tu as vu le premier ou le président de la République. Non, ce pays-là, vraiment, c'est pas la peine.
Le directeur des marchés du district de Bamako était sur place. Il est dépassé en voyant les dégâts causés par l'incendie. Issa Balou.
Bon, selon l'explication du commissaire, il y avait un premier foyer et que le feu a été propagé par les fils de chaude de l'énergie, les fils conducteurs de l'énergie, qui a propagé le feu à travers le marché. L'IRI, à travers son ministère de la Tente, on est en train de chercher des sites de recasement. Donc, les travaux en quoi cette recherche est avancée.
Le marché rose de Bamako vient de connaître son troisième incendie. Après 93 et 2014, l'incendie du 11 décembre 2017 est le plus grave. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace out.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde Joselle Morissin, assistée de Rob McLean. Je suis Anastasie Tudiech. Pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les récentes élections législatives et municipales en Guinée équatoriale constituaient une chance pour le gouvernement équato-guinéen d'atteindre l'objectif d'accentuer l'ouverture démocratique, ouverture qui était au centre du dialogue national tant célébré de 2014. Ainsi que l'avait déclaré à l'époque le président de longue date, Obiangema Mbasogo, la démocratie et l'unité nationale doivent être prioritaires parmi les problèmes que connaît le pays. Sans liberté publique, il ne saurait y avoir le développement institutionnel. Malheureusement, comme l'a écrit l'ambassadrice américaine en Guinée équatoriale, Julie Furutatoe, dans un récent article d'opinion, le gouvernement a manqué en novembre l'opportunité d'étendre l'espace démocratique, de démontrer qu'il est à l'écoute du peuple et d'améliorer son image sur la scène internationale. Les élections étaient un pas en arrière, a-t-elle écrit. Le scrutin de liste n'a pas permis au public de voter librement ses représentants parce qu'ils devaient voter pour un parti. Et le décompte final des suffrages n'était pas du tout transparent ou libre. En plus, des restrictions étaient en vigueur sur Internet et les systèmes de communication. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti du président Nguema, a remporté les législatives et les municipales avec 92% des suffrages. L'opposition ne compte à l'Assemblée nationale qu'un siège remporté par le Parti des citoyens pour l'innovation, les 99 autres revenant au parti au pouvoir. L'ambassadrice Furuta Toy a souligné qu'une opposition vibrante et loyale est nécessaire pour créer des opportunités économiques pour tous. Sans écouter toutes les voix, sans démocratie représentative, le gouvernement limite la capacité des citoyens à opérer des choix informés pour l'avenir de la nation. Ainsi qu'elle l'a écrit en début d'année, la plus grande ressource de la Guinée équatoriale n'est pas ses abondants gisements de pétrole brut et de gaz, la plus importante ressource de la Guinée équatoriale est en fait son peuple, a dit l'ambassadrice Furuta Toé. Il est plus que temps pour les leaders de la Guinée équatoriale de veiller à ce que les équato-guinéens disposent de l'espace démocratique nécessaire à l'épanouissement de leur pays.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.